Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Da sind Sie in Saint-Avold, an der Grenze von Deutschland. Ça veut dire, vous êtes à Saint-Avold, à la frontière allemande. C'est notre patois lorrain.
Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle étape de notre Tour de France. Hier, Auris Fez était à Boussac, dans la Creuse. Aujourd'hui, on est en direct de Saint-Avold, en Moselle, tout proche de l'Allemagne. Cette commune de 15 500 habitants a encore gardé énormément de liens avec la voisine germanique. Au point qu'au restaurant Couscous hier soir, on a été surpris de voir que le menu est en français et en allemand. C'est une ville au carrefour de plusieurs cultures, par sa situation géographique et aussi par son histoire. Saint-Avold a vu arriver par le passé une importante immigration polonaise, italienne et maghrébine pour travailler dans les mines. Mais après leur fermeture et la fin du charbon, Saint-Avold mise sur l'industrie pétrochimique pour rebondir. D'un point de vue industriel, la qualité prime aujourd'hui sur la quantité, ce qui permet à la commune de connaître une croissance relativement supérieure aux autres villes du bassin houiller. Pour preuve, les commerces de proximité sont plus nombreux que dans les villes voisines de Forbach ou Frémin-Merlebach. Saint-Avold a aussi un lien avec un autre pays, les États-Unis. C'est ici, en Moselle, que se trouve le plus grand cimetière américain d'Europe. 10 489 tombes ornées d'une simple croix blanche, un lieu pour rendre hommage aux soldats tombés pour les soldats tombés durant la Seconde Guerre mondiale. C'est très impressionnant à visiter. On a choisi de venir à Saint-Avold car cette ville a vu l'une des plus fortes mobilisations des Gilets jaunes. Pendant des mois, ils ont occupé le rond-point de la zone commerciale à la sortie de la commune. On en parlera aujourd'hui en direct sur France Inter dans Rendez-vous Place du Marché, le marché où je suis justement en compagnie de Jackie Conteneur. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous êtes éleveur de poulets, vous ne vendez pas ici car vous avez un magasin tout proche, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, il y a devant nous un vendeur de volailles vivantes. C'est plutôt rare ici, Jackie, de voir des marchés avec des bêtes vivantes.
Oui, les animaux vivants sont compliqués à amener sur un marché, donc en général, les producteurs préfèrent les vendre sur leur exploitation. Là, effectivement, c'est rare, on a un éleveur présent.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, votre prénom ?
Denis.
Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ?
Ben, aujourd'hui, j'ai plus grand-chose, j'ai plus de dinde, j'ai plus de pintade, j'ai que des oies, des canards et plus de poules non plus. Tout est parti.
C'est compliqué de pouvoir vendre des animaux vivants sur un marché ?
Ben, il faut... Non, on n'en voit plus. Hein. Je pense que monsieur le sait, il faut des autorisations sanitaires et il faut un numéro d'identité. Pour les œufs. Si vous n'avez pas l'autorisation sanitaire, vous n'avez pas le droit.
D'accord, ils viennent chez vous faire les vérifications.
Ah bah ils font deux fois par an.
Deux fois par an ?
Ouais, deux fois par an.
Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup.
De rien.
Bonne journée. Juste en face, on a une productrice de fromage de chèvre et de vache. Vous la connaissez bien, Jackie Conteneur ?
Oui, effectivement, Cléa est présente dans notre magasin avec ses produits.
C'est Cléa ?
Cléa Monceau, ouais.
Alors vous faites partie de la ferme des Bigoudis.
Oui, c'est ça.
J'aime beaucoup, pourtant vous avez les cheveux courts.
Ouais, c'est une petite blague.
Et alors qu'est-ce que vous proposez aux clients qui viennent fréquenter le marché de Saint-Avold ? Vous avez
alors,
quoi ?
Alors moi je propose des fromages de chèvre, donc du frais jusqu'au sec, en passant par le demi-sec, avec des aromatisés, ainsi que des fromages de vache aussi, donc du frais jusqu'au sec également, avec quelques tomes.
Tout ouais. Ça, vous produisez à la ferme. Vous êtes combien à la ferme ?
Ouais.
Vous avez combien d'animaux ?
Alors, j'ai 59 chèvres,
ouais,
voilà. J'ai 4 vaches en lactation, et ensuite, on est mon ami et associé, on a 2 salariés, même 3. Et voilà, et on travaille aussi en collaboration avec d'autres amis maraîchers. Voilà.
Vous faites ça depuis longtemps ?
Nous, on a démarré en mai 2017.
C'est relativement. Vous faisiez quoi avant ?
C'est relativement. Moi, avant, je travaillais dans la ferme en tant que j'aidais la
macédante. Vos amis,
voilà.
Vos amis, votre compagnon ?
On a gardé un salarié qui était déjà là sur les marchés avec nous, et voilà.
Jackie Conteneur, merci beaucoup. Bon courage.
De rien, merci.
Jackie Conteneur, on va s'avancer pour rejoindre la terrasse du restaurant Le Régal, pour rejoindre les autres invités. Parmi eux, des gilets jaunes de Saint-Avold, ils sont venus nombreux. Il y a aussi un jeune écologiste de 15 ans, une passionnée de cuisine lorraine et un chanteur transfrontalier. Et bien sûr, vous-même, Jackie Conteneur, pour parler d'agriculture et alimentation. Mais avant, on écoute un peu de musique avec Rachid Taha, qui chante Ansit, un titre choisi par Djoubaka.
نسيت أمي نسيت
Vous écoutez France Inter, on est en direct du marché de Saint-Avold en Moselle, à deux pas de l'Allemagne. On a avancé pour rejoindre la terrasse du restaurant Le Régal, qui est en face du marché. Il y a juste une rue qui nous sépare. Le patron, c'est Michel Potier. Bonjour.
Bonjour Antoine.
C'est quoi cette boîte verte là qui m'intrigue, qui est accrochée sur votre mur? On peut s'en approcher?
Oui, bien sûr. La boîte verte là, c'est un club d'épargne.
Voilà, c'est une boîte, c'est comme une grosse boîte aux lettres avec tout plein de petites fentes.
Tout à fait. Chaque case correspond à un adhérent. Tous les 15 jours, l'adhérent doit mettre de l'argent dedans. Ce sont généralement des habitués.
Donc, les adhérents, c'est les clients, hein.
C'est les clients, qui fréquentent le restaurant. Il y a un comité qui gère ça. Tous les 15 jours, les boîtes sont ouvertes. On sort l'argent. On note tout ce qui a été inscrit, tout ce qui a été mis, pardon, dans les boîtes. Et en fin d'année, nous rendons l'argent aux adhérents.
C'est des grosses sommes?
Il peut y avoir de grosses sommes, non, pas beaucoup. Ça peut varier en fin d'année, entre 300, 400, 500 euros.
Par personne?
Par personne. C'est pour les cadeaux de fin d'année. C'est un petit peu le principe là, voilà.
Ça les oblige à épargner?
Ça les oblige à épargner. Et comme ça, en fin d'année, ils ont un petit pécule pour faire les cadeaux.
Mais c'est une pratique qui est vraiment inhérente à la région, qui est...
Tout à fait, tout à fait. Tout ce qui est un petit peu frontalier avec l'Allemagne, hein. Il y en a beaucoup aussi en Alsace et puis tout le long de la frontière. Je pense que c'est encore allemand puisque, normalement, on appelle ça un Sparklub.
Voilà. Un Sparklub?
Un Sparklub. C'est le patois d'ici, voilà.
D'accord. Comment on pourrait traduire ça?
Club d'épargne.
Club d'épargne.
Un club d'épargne, voilà.
Très bien. Voilà. Alors, ici, on voit, là, il y a le comptoir. Bah, alors, il est condamné, hein. Vous avez mis des grandes...
Le comptoir, il est condamné parce qu'avec avec les distances qu'il faut entre les personnes, le bar est trop petit.
À cause du Covid?
À cause du Covid. Donc, autrement, j'aurais qu'une personne. Donc, j'ai préféré fermer. Puis, comme ça, je suis en règle. Et puis, on n'a pas de souci de ce côté-là.
Comment ça s'est passé pour votre commerce par rapport à la crise des gilets jaunes? Ici,
sur Saint-Avold?
Ouais, oui. Ils sont beaucoup mobilisés. Vous avez
ils étaient très, très, très souvent mobilisés. Nous, au centre-ville, c'est encore été. C'est plutôt aux grandes surfaces, comme ils étaient installés sur le rond-point. Nous, au centre-ville, tout s'est bien passé, hormis une journée où il y a eu les casseurs, on va dire, qui sont venus. Autrement, nous, au centre-ville, on a été moyennement impactés, on va dire.
Ils ne sont pas venus casser votre vitrine?
Non. Au centre-ville, non, je vous dis, il n'y a rien eu, sauf le jour où il y a eu les casseurs. Les gilets jaunes, eux, ils ont manifesté, ils ont revendiqué leurs droits, et puis voilà.
Mais c'est des gens que vous connaissez aussi?
J'ai des clients, bien sûr.
C'est des clients. Gilets jaunes, c'est des habitants de Saint-Avold?
Ce sont des gens de Saint-Avold, voilà.
Vous les connaissez bien?
J'en connais beaucoup.
Aujourd'hui, il y a quoi, à midi?
À midi, aujourd'hui, alors il y a du poisson, il y a du rôti de porc, et il y a du bœuf maude.
Très bien. Bon, je vous laisse travailler. Okay. Et en fait, je vous demandais ça pour les gilets jaunes, parce que Saint-Avold a vu l'une des plus fortes mobilisations de gilets jaunes dans la région. On va les rejoindre sur la terrasse. Pendant des mois, des femmes et des hommes ont occupé le rond-point de la zone commerciale à la sortie de la ville. Un bungalow gris foncé leur servait de point de ralliement. On en a trois avec nous, Jacqueline Beer, Cataline Paul et Christian Porta. Vous êtes tous les trois gilets jaunes. Bonjour.
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 Alors, vous êtes venus... avec vos amis, il y a autour de vous une dizaine de gilets jaunes venus vous supporter. Vous savez, on n'est pas méchants, nous, hein. Il n'y a pas besoin de venir en gros comité comme ça. Jacqueline Beer, vous êtes à la retraite depuis 3 ans. Avant, vous étiez femme de ménage à l'hôpital de Forbach, à côté de Saint-Avold. Aujourd'hui, vous gagnez combien?
Alors là, je suis à la retraite. J'ai 900 euros de retraite et 500 euros de complémentaire. C'est l'équivalent du salaire que j'avais quand je travaillais.
Vous vivez seule?
Je vis avec mes enfants.
Combien d'enfants?
3 enfants.
D'accord. C'est vous qui en avez la charge? Vous voulez comment ça se passe?
Non, il y en a un qui est installé, un qui est au RSA et le plus jeune qui est au chômage à cause de toutes nos entreprises régionales qui ferment. Qui fuit à l'étranger.
Vous avez rejoint le mouvement dès le départ?
Dès le départ, dès le 17 novembre 2018.
Cataline Paul, vous avez 40 ans. Vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi à cause du Covid-19.
Oui.
Vous élevez, vous, 3 ados, seuls.
Seuls.
Et vous aussi, vous avez rejoint le mouvement dès le début?
Dès le début. On a commencé avec rien. On a eu le droit à la pluie, au mauvais temps. On était sous la pluie. On a été soutenus dès le départ. Je pense qu'il est important que les gens continuent à se mobiliser, car on ne peut plus vivre comme ça. Surtout nous, nos retraités, et surtout pour nos jeunes, parce que quel avenir va être pour eux? On le voit avec toutes les réformes, on le voit avec tout, voilà, tout ce qui se passe, quoi.
Et pour le présent, vous faites comment concrètement? Vous avez trois ados à la maison que vous élevez seul.
C'est compliqué. C'est très compliqué.
Concrètement, vous percevez quel revenu?
Là, je suis au RSA, voilà. Donc,
le RSA, il s'élève à...
Là, avec trois ados, je touche 1000 euros. Pour vivre à quatre.
Christian Porta, 29 ans, vous avez. Vous travaillez pour la boulangerie industrielle Neuhauser.
C'est ça.
Votre salaire?
Mon salaire, il est environ à 1700 euros.
Au plus fort de la mobilisation, combien étiez-vous sur le rond-point à Saint-Avold, à la sortie de la ville, là?
On était environ entre 2 et 3 000 personnes sur le rond-point de Saint-Avold. Mais il faut savoir qu'en Moselle, il y a eu, et surtout en Moselle-Est, il y a eu des ronds-points partout. Il y a eu Sarreguemines, il y a eu Creuswald, il y a eu Metz, partout. Et il y avait des milliers de personnes ce jour-là présents.
Vous, vous êtes salarié. Pourquoi vous avez rejoint le mouvement des Gilets jaunes?
Parce que les revendications que le mouvement des Gilets jaunes porte sont des revendications qui nous touchent toutes et tous. Et on s'est senti, moi je suis déjà militant avant ça, hein, je suis militant CGT, et on s'est tous sentis portés, on s'est tous sentis touchés par les revendications portées.
Vous, Jacqueline?
Alors c'est à cause des taxes sur le carburant qui ont flambé, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On était limités en fin de mois, on a imposé aux gens des postes coupés avec des indemnités kilométriques non rémunérées, donc ils nous ont carrément foutus au fond du gouffre.
Cataline, en rejoignant le rond-point et ces milliers de gilets jaunes, vous, qu'est-ce que vous avez trouvé sur place?
Beaucoup d'humanité. Beaucoup d'humanité, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans pas mal de personnes qui vivaient la même situation, et on s'est rendu compte au fil des jours qui passaient que... beaucoup de personnes qui passaient par là, klaxonnaient, nous soutenaient, avaient exactement les mêmes problèmes que nous. Et on s'est sentis unis. Et les Gilets jaunes, c'est ça. C'est l'union pour mieux vivre.
Est-ce que vous vous êtes senti visible? Est-ce que vous avez l'impression que pendant très longtemps, on ne vous voyait pas, on ne faisait pas attention à vous, et que là, d'un coup, on vous voyait?
C'est tout à fait ça. On s'est entendu entre nous. On s'est entendu entre nous, et ça a été vraiment l'union tout de suite. On parlait de ce qui devient notre quotidien, qui devient malheureusement catastrophique, et qui fait peur, parce que quand on voit un retraité aller fouiller les poubelles pour pouvoir manger, c'est triste.
Christian, Jacqueline, vous êtes venu avec vos gilets jaunes. D'ailleurs, il y a la croix de Lorraine devant. Derrière, c'est marqué Saint-Avold. Vous êtes très attaché à la région. Vous revendiquez votre appartenance à ce territoire.
On est d'ici, on a grandi ici, et on voit depuis maintenant une vingtaine d'années le territoire mourir. Donc c'est pour ça qu'on est attaché, quoi. C'est chez nous, mais c'est une belle région.
Chacun est fier de sa région et chacun se bat selon les conditions qui existent dans sa localité. Nous, c'est toutes nos entreprises qui fuient à l'étranger. Bientôt, notre pain va venir de Pologne ou de Roumanie, parce que Neuhauser travaille très bien.
La boulangerie où travaille Christian.
Voilà, tout à fait. Pourquoi s'expatrier, aller à l'étranger pour que nos patrons fassent encore plus de bénéfices?
Christian Porta, comment vous expliquez que la mobilisation ici à Saint-Avold ait été aussi forte?
Parce qu'on est dans un bassin d'emploi où il n'y a plus de boulot. C'est la misère chez nous. On a un taux de chômage qui est extrêmement élevé. On fait partie des régions les plus pauvres de France. Donc évidemment, il y avait une colère sociale et qui s'est exprimée, qui s'est retrouvée dans le mouvement des Gilets jaunes.
Cataline, c'était très varié au niveau du profil des gens qui étaient là autour du rond-point. Il y avait vraiment de tout.
Il y avait salariés, chômeurs, mères célibataires comme moi, retraités, vraiment de tout.
Il y avait des actifs aussi.
Il y avait des actifs également. Également, parce que, disait Christian, c'est un mouvement qui réunit vraiment tout le monde et qui touche vraiment tout le monde. C'est compliqué, même avec deux salaires, de vivre. C'est triste quand même.
Il s'est passé beaucoup de choses sur ce rond-point, des choses étonnantes, des belles choses. Il y a aussi vous avez des beaux souvenirs. Il s'est passé des choses, visiblement. Vous avez fêté Noël, par exemple.
Oui, avec les moyens du bord.
Et c'était quoi ces moyens du bord?
On a tous un peu, voilà, il y a eu la générosité de tout le monde. Et on a fait avec nos petits moyens. On a essayé de faire avec nos petits moyens et puis faire plaisir à tout le monde.
Il y avait quoi à manger?
Il y avait un peu de tout. Il y avait des biscuits faits maison. Il y a eu des bûches offertes par la pâtisserie d'Ozda. Il y a eu également Leader Price qui avait offert quelques petits présents, des voitures qui avaient également déposé des gens dans la précarité qui étaient venus aussi.
Christian Porta, en fait, que ça soit en 2018, fin 2018 ou aujourd'hui, quel est le but de votre mobilisation? C'est quoi les revendications? Est-ce que c'est toujours les mêmes ou est-ce qu'elles ont évolué?
Elles ont évolué au fil du temps, notamment quand il y a eu la réforme des retraites, par exemple. On a vu les Gilets jaunes rentrer, on est rentré directement dans ce mouvement. Comme la camarade a une pancarte sur les retraites, c'est quelque chose qui nous touche. Mais c'est vrai qu'elles ont évolué au fil du temps. La taxe carburant était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Mais après, ça a été le pouvoir d'achat, ça a été énormément de choses qui vont plus. Mais c'est même plus profond que ça. Hein. C'est vraiment un système, je pense, qu'on dénonce derrière tout ça. Quoi.
Vous, en fait, ce que vous voulez, vous avez fait référence au pouvoir d'achat, vous voulez pouvoir consommer.
Non, pouvoir vivre, déjà. Ça serait déjà bien et pas survivre.
Jacqueline Beer, qu'est-ce que ce mouvement a apporté aux Gilets jaunes de Saint-Avold, vous par exemple? Vous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça a servi à quelque chose?
Le fait de voir que tant de gens sont dans la souffrance et de ne plus avoir honte de dire tout ce qui ne va pas. Hein, les gens qui, nos anciens qui font les poubelles, c'est vraiment triste. Et on peut pas continuer sur cette voie-là. Et quand on sait que, on nous dit que les caisses sont vides et que eux se permettent de s'augmenter de 20%, de donner aux députés 300 euros en plus de leurs 900 euros pour leur hébergement, alors qu'à nos enfants, on enlève 5 euros d'APL, si ça, c'est pas des aberrations, il faut quand même, à un moment donné, redevenir juste et faire pour que les choses évoluent dans le bon sens.
D'ailleurs, Jacqueline, vous portez un t-shirt où c'est écrit « Nos impôts, pas pour ton homard ni ton pinard ». Ça fait référence au homard François de Rugy qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale.
Oui, quand on sait que nous, les Français, on a 5 euros d'autorisés sur les repas et que eux se permettent de s'acheter des bouteilles de vin à 300 euros, que nous, on trime pour payer nos impôts, c'est des choses pas normales.
Alors on l'a dit, pendant vos rassemblements, il y a eu des choses positives, joyeuses, de la solidarité, mais il y a aussi des choses négatives. On se dit tout ici, à Rendez-vous Place du Marché. Ici, le 1er décembre 2018, à Saint-Avold, il y a eu des affrontements, il y a eu des saccages, des magasins ont été vandalisés. Ici, on a parlé de guérilla urbaine. Avec le recul, vous en pensez quoi?
Alors tout ça aurait pu être évité si tous les députés, tous les ministres qui étaient à l'Assemblée avaient mis leur gilet jaune comme Monsieur Lassalle. Je trouve inadmissible que Monsieur Lassalle a été puni de 1500 euros d'amende alors qu'il défendait une juste cause.
Mais ce n'est pas les députés qui ont demandé aux gilets jaunes de tout casser.
Alors si justement tous les députés avaient endossé le gilet jaune, eh bien tout cela aurait été évité.
Christian Porta, vous avez constaté, vous, un durcissement du mouvement à ce moment-là?
Moi, le 1er décembre, j'étais présent. Et la chose qui s'est passée, c'est vrai que ça aurait pu être évité. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur le rond-point, comme tous les samedis. C'était notre troisième samedi, on était présents. On était des centaines de personnes sur le rond-point. Et là, la police est arrivée et a voulu nous déloger. Il n'y avait aucune raison pour pouvoir nous déloger. Et là, ils sont venus nous déloger et ils ont utilisé la force. Ils nous ont gazés. Et nous, c'est la première fois qu'on voyait ça. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait tout le monde sur ce rond-point. Et on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et oui, il y a eu une réponse. Alors certes, la violence n'est peut-être pas la solution, mais il y a eu une réponse, on n'a pas voulu se laisser faire. Pour nous, le rond-point, on s'est réapproprié l'espace public, c'était notre rond-point, et ils n'avaient pas à nous déloger du rond-point, comme ils l'ont fait.
On va rappeler quand même qu'il y a eu des violences policières, 4000 blessés en tout, dans toute la France, dont 29 personnes qui ont été éborgnées, et 5 autres qui ont eu la main arrachée. Cataline, Christian, Jacqueline, aujourd'hui, où en est votre mouvement? On entend moins parler de vous.
Parce qu'on a été délogé, tout simplement.
Pardon ?
Parce qu'on a été délogé, tout simplement.
Il y a aussi le Covid.
Le confinement existe toujours. Le confinement oblige, donc 2 mois d'inexistence peut-être, mais pas sur les réseaux sociaux.
Mais après, il y a aussi une réelle chasse aux gilets jaunes, on va pas se mentir. Tous les QG, comme on appelle ça, sur les ronds-points, on avait tous des cabanes, même nous, on avait un bungalow, on s'est tout fait enlever. La police venait à 5h du matin, 6h du matin, venait détruire les QG. Voilà, elle voulait plus qu'on soit visible sur les ronds-points. Ce qu'il y avait de beau, c'était qu'on était très visible, et ils ont fait en sorte qu'on perde cette visibilité. Et après, dans les manifestations, si on portait un gilet jaune, c'était 135 euros d'amende pour le port d'un gilet jaune. C'est-à-dire même pas une manifestation, pour le port d'un gilet jaune. Donc effectivement, après, le gilet jaune en soi était moins visible, mais c'était dû à la répression qu'il y a eu.
Cataline Paul, comment vous voyez l'avenir de votre mouvement ?
Ben, il va se renforcer, je pense. On a pu le constater, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure encore. On l'a vu avec la crise du Covid. On a vu un personnel hospitalier, mais complètement démuni. Et je trouve ça lamentable, excusez-moi du terme. Sachant qu'on est censé être un des meilleurs systèmes de santé. Et quand on voit dans quelles conditions le personnel soignant a dû travailler, je trouve ça bien triste. Et il va se durcir, ce mouvement, et la solidarité va être de mise.
Lorsque vous étiez sur le rond-point, vous deviez vous occuper parce que le temps peut être long. Est-ce que vous écoutiez la radio, Christian ?
Bah, on écoutait la radio, on regardait même la télé, hein, on a regardé les discours d'Emmanuel Macron sur les ronds-points, on a projeté des films, on a fait énormément de choses et c'était vraiment autogéré et c'est ça qui était magnifique. Ça prouvait aussi qu'on était en capacité de gérer, bon certes c'était un rond-point, mais ça montre aussi qu'on est capable de gérer une société hein, au fond.
J'espère que la radio que vous écoutiez, c'était France Inter.
Bien entendu.
Ou peut-être Radio Saint-Nabor. Avant de s'appeler Saint-Avold, la ville portait le nom de Saint-Nabor. Cette radio associative existe depuis plus de 30 ans. Une vingtaine d'animateurs bénévoles l'animent. Et quand je m'y suis rendu hier, c'était Christiane Keff qui tenait le micro.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Ma radio, c'est Radio Saint-Nabor.
Et oui, vous êtes toujours bien calé sur les ondes Radio Saint-Nabor qui se situe à Saint-Avold. Et c'est sur le 103.2 en FM et en stéréo. Et c'est toujours Christian qui vous accompagne en musique. Et nous allons partir avec une prochaine chanson. Et c'est les Mühlenhof Musikanten. Voilà pour vous, encore bel après-midi en musique sur nos ondes. Nous, avec notre accent, on va se faire repérer.
C'est génial, votre accent.
Oui, vous trouvez.
Bah oui, moi, j'adore.
Je me repérer quand on va en vacances chez ma fille en Bretagne, elle habite à Vannes. Elle dit toujours, ah, vous êtes belge. Quand je vais dans les magasins, je dis, non, on n'est pas belge.
Vous êtes française.
Oui, bien sûr. Hein.
De Saint-Avold.
Voilà.
Et vous, vous faites tout. Vous faites quoi? Vous faites l'animation?
Moi, je fais le truc, je fais la régie, je fais la musique, je fais le téléphone.
Le téléphone, vous répondez au téléphone?
Oui. Tout à l'heure, on m'avait téléphoné sur ce téléphone-là. Hein.
Ça m'a surpris parce que lorsque je vous ai appelé, je pensais que vous étiez la standardiste. Quand vous m'avez dit que vous étiez à l'antenne, j'ai compris que vous étiez aussi animatrice.
Triple salaire, je fais tout.
Triple salaire?
Oui. Non, je rigole. Non, on est tous des bénévoles. Hein.
Quel est le profil des auditeurs de Radio Saint-Nabor à Saint-Avold?
Notre station, c'est plutôt la classe moyenne, hein, les âges moyens. C'est parce que ça dépend des émissions. On a des animatrices qui font de la musique plus moderne. Moi, je suis toujours restée dans mon style. Hein.
Vous mettez de la musique que vous aimez, vous?
Aussi un petit peu. Non, mais c'est beaucoup. Je sais ce que les gens, ils aiment, hein, ceux qui écoutent. Hein, je sais très bien.
Hein. Ils aiment quoi?
Un peu le mélange français-allemand, des chansons pas trop modernes. Hein. Alors les gens, ils demandent une chanson. Alors je vais chercher si je l'ai, parce que moi, j'ai pas les chansons sur ordinateur. Vous voyez, moi, j'ai tout en CD et en armoire là derrière, un double armoire. Il est plein de CD. Hein.
C'est à l'ancienne, quoi.
Oui. Moi, j'aime ça, je fouille, je cherche. Des fois, je trouve pas tout de suite la chanson. Quand je range le soir, je la trouve.
Ça va, on a encore un peu le temps de parler, là?
Je vais annoncer une chanson encore. Il est 16h25, toujours accompagné en musique par Christiane. Und jetzt mit dem nächsten Lied wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag. Und das ist ein Hitmedley, gespielt von Angela Wiedel. Nur für Sie.
Ben, bonne émission, Christiane.
Oui, je vous remercie. Hein.
Merci, collègue.
Super, merci.
Je veux 100 mètres, dans le sang, j'ai. reflet dans la vide. De l'espace pour écrire, c'est large comme le ciel. Je me réentends te dire que je connais pas la suite. C'est étrange à quel point il faut toujours que je me rende aussi loin pour voir ce que j'ai laissé derrière. Je fais tourner des photos dans une main pendant que l'autre se croise les doigts. Moi, mon rêve américain, c'est celui qui me ramène à toi. Sans remarquer les klaxons, même le signal pour piétons. Pas pitié de mon allure. Qu'est-ce qui m'a pris de croire que je partais pour de bon? C'est étrange à quel point il faut toujours que je me rende aussi loin pour voir ce que j'ai laissé. C'est celui qui me ramène à toi. Je fais 100 km et à la vitesse du son. Par-dessus les boulevards, les bars et les moments d'absence. Ça vient qu'il y ait l'idée de s'éloigner pour mieux voir venir le fond. Encore le fucking va-et-vient des amours à distance. Mes larmes se mélangent à l'eau salée sur mes lèvres. Au rythme des vieux pipes pilés de pieds dans l'océan. Je fixe le soleil embrouillé qui se lève. Je m'imaginais pas que tu m'entrais autant. Pourquoi il faut toujours que je me rende aussi loin?
Vous êtes sur France Inter, c'était Louis-Jean Cormier avec 100 mètres haies. On est toujours en direct du marché de Saint-Avold. Cataline Paul, Jacqueline Beer et Christian Porta, tous les trois gilets jaunes, sont restés avec nous, avec tous leurs amis gilets jaunes. Il y a au moins, je crois que vous êtes au moins une vingtaine. C'est assez impressionnant. Il y a aussi Jackie Cantoneur, éleveur de volailles qu'on a entendu en début d'émission. Et Victor Noël nous a rejoint. Il n'a que 15 ans, mais déjà une grande conscience des problématiques liées à l'environnement. Mais on commence avec vous, Jackie Cantoneur. Vous élevez des poulets dans la région. Combien de bêtes vous sortez par an?
Je sors entre 7000 et 10000 poulets à l'année, ce qui est un très petit élevage en soi.
Vous les élevez dans quelles conditions?
Alors chez moi, ils sont élevés totalement en plein air, nourris avec mes céréales. Je fais également des céréales et je les commercialise uniquement dans des circuits courts.
Alors vous avez une particularité, c'est que vous êtes associé à 7 autres agriculteurs mosellans et vous avez ouvert il y a un an et demi un magasin fermier de producteurs, le Champêtre. Quel est le principe?
Le principe, c'est que effectivement, plutôt que de faire venir les clients sur nos exploitations, c'est de dire on va sur une zone commerciale, on ouvre un magasin ensemble et on offre une gamme complète de produits. Moi, j'avais que du poulet à vendre. Je me suis associé avec un éleveur de bœuf, un éleveur de veau et différentes productions pour que le client trouve tous les produits alimentaires chez nous.
Mais il n'y a pas que les huit agriculteurs qui vendent dans ce magasin. C'est ouvert à d'autres.
Alors les huit agriculteurs là ont monté une structure. Et on a ouvert exactement en même temps que les Gilets jaunes ont démarré leur mouvement. On était tout près l'un de l'autre. Aujourd'hui, on accueille à peu près 75 autres agriculteurs dans notre magasin pour compléter la gamme qui peut aller du safran, du chocolat et jusque... J'ai tendance à dire toujours, on va de la petite bête à cornes, l'escargot, à la grosse bête à cornes, le bœuf.
Et avant d'ouvrir la boutique, vous faisiez les marchés?
Oui.
Comme celui qu'on voit devant nous, mais c'est plutôt à Beach. Mais vous avez arrêté parce que c'était contraignant.
Alors, c'est contraignant d'abord pour une question de météo, parce qu'en hiver, c'est pas agréable. Vendre des chapons à Noël quand il neige, les clients ont du mal de venir. Et puis ça prend beaucoup de temps parce qu'on y passe la journée, on n'est jamais sûr du retour des clients. Et quand on a des restes, on n'aime pas jeter nos produits et c'est difficile à gérer.
Et à la boutique, c'est plus simple. Comment vous vous organisez entre la boutique et votre activité d'éleveur de poulet?
Alors la boutique est ouverte 4 jours par semaine, ce qui me laisse encore 2 jours pour travailler sur une exploitation et une journée pour prendre du temps libre quand même un peu le dimanche. On gère ça en commun, ce qui fait que mes produits sont vendus 4 jours dans la semaine, mais moi je suis présent physiquement qu'un jour. C'est mes collègues qui vendent mon produit les autres jours.
Jackie Cantonneur, donc vous êtes éleveur de poulet, vous avez cette boutique. Comment ça s'est passé durant le confinement pour vous et vos associés?
Alors durant le confinement, on a joué un rôle essentiel parce qu'on était nous ce qu'on appelle la troisième ligne, l'intendance. Le général de Gaulle disait l'intendance suivra et on faisait partie de ça. Et on a porté notre métier haut en couleur en disant il faut qu'on relève le défi de donner un peu de soleil dans l'assiette des gens quand ils sont enfermés chez eux.
Donc il y avait beaucoup de clients à ce moment-là.
On a eu énormément de clients, on a doublé notre activité sur les 2 mois de confinement.
Et comment ça s'est passé après le confinement, lors du déconfinement? Alors, ils sont restés fidèles ou pas?
Ils ont repris beaucoup leurs habitudes d'avant.
C'est-à-dire?
Après on leur en veut pas, ils ont retrouvé le chemin du gros supermarché où ils retrouvaient leurs produits et ils ont refait les déplacements qu'ils avaient l'habitude, c'est-à-dire à plus de 10 km de chez eux.
Jackie Cantonneur, vous avez redonné un sens à votre travail, vous avez retrouvé les valeurs de votre métier?
Alors moi je les avais pas perdus, mais les clients eux se souvenaient plus qu'effectivement l'aliment c'est quand même quelque chose d'essentiel dans la vie. Ils avaient l'impression qu'il y avait profusion de produits et qu'ils n'en manqueraient jamais. Et pendant le confinement, tout d'un coup, ils ont eu peur d'en manquer. Et effectivement, moi j'ai retrouvé ma première vocation de dire c'est d'abord nourrir les gens. Or, on nous accuse de beaucoup d'autres choses aujourd'hui, à tort ou à raison, mais en tout cas, notre métier était dévalorisé. Là, on a reconnu notre métier.
Mais vous dites que les gens ont repris leurs habitudes d'aller dans les centres commerciaux. C'est peut-être parce que c'est moins cher, c'est juste pour une histoire d'argent. Vos produits sont plus chers?
Alors non. Non, on peut faire des relevés de prix ici sur le secteur. Nos produits, et on a une cliente qui est ici présente tout à l'heure qui parlera, nos produits ne sont pas plus chers. On est exactement au même tarif que les supermarchés de la région.
Bah comme on a des gilets jaunes avec nous, on va demander leur point de vue. Christian Porta, par exemple, vous êtes retourné dans les centres commerciaux, vous avez continué à vous fournir dans les commerces de proximité.
C'est vrai que je suis plus sur les hypermarchés, les supermarchés, etc.
Pourquoi ?
Souvent pour le côté pratique et le peu de temps. Mais c'est vrai que par contre, le magasin, il a ouvert une réputation et on sait que c'est des très bons produits. Je suis déjà allé, c'est vraiment des produits d'extrêmement bonne qualité. Et au moins, je peux mettre un visage sur l'éleveur de poulets qui vend sûrement les meilleurs poulets de Moselle.
Cataline Paul.
Alors, moi, j'ai découvert la boutique quand elle a ouverte. Et c'est vrai que même si j'ai peu de moyens, je suis une petite adepte. Je suis une petite adepte parce que j'aime bien la viande et que je sais d'où vient le produit, quoi.
Et au niveau des prix, c'est comme au supermarché ou
c'est pas plus cher, quoi.
Ça confirme ce que vous disiez, Jackie. Ce qui est important pour vous, c'est de restaurer le lien entre les producteurs et le consommateur. On le voit bien là.
Alors oui, c'est un des objectifs aussi. L'agriculteur, pendant longtemps, est resté seul dans son village. Or, il fait partie d'un milieu social et économique qui est lié à notre milieu rural. Aujourd'hui, aller faire ses courses en supermarché, c'est permettre à les grands manias du CAC 40 de racheter un deuxième yacht. Quand on achète un agriculteur dans notre magasin, on permet à nos enfants d'aller dans les mêmes colonies de vacances que les enfants des gilets jaunes. Et c'est un lien social. Aujourd'hui, sur notre magasin, on a créé 4 emplois directs. On en a créé 6 indirects dans nos exploitations. Donc on est vraiment porteur de proximité. Et ça, on ne le délocalisera pas. Tout à l'heure, il parlait de délocaliser des grandes entreprises. Nous, c'est des entreprises locales, on ne les emmènera pas ailleurs.
Donc un engagement pour créer du lien avec les clients, mais aussi entre vous, entre producteurs, agriculteurs, vous organisez des réunions hebdomadaires, ce qui permet de voir si l'un d'entre vous a un petit coup de mou, un petit coup de moins bien, ou de déceler éventuellement des coups de déprime, voire de suicide.
Alors ça fait partie aussi effectivement d'une de mes idées, c'est que si les agriculteurs se retrouvent ensemble pour discuter de nos problèmes, c'est les évacuer. C'est la même chose qu'on a retrouvé tout à l'heure dans le discours des Gilets jaunes, de se retrouver ensemble, on se comprend, et ça nous permet de communiquer aux autres et de se soutenir entre nous, parce que, vous l'avez dit, le suicide en agriculture, c'est un gros problème aujourd'hui. Or, si on ne se parle pas, on n'évacue pas les problèmes, on les garde chez nous.
Mais l'agriculteur est pudique, il n'aime pas trop exposer...
Il est pudique de nature, il a l'habitude d'être seul sur son exploitation, il a l'habitude de parler éventuellement son chien, mais ça avance pas beaucoup dans le dialogue. Et donc, de retrouver des agriculteurs qui ont le même langage que lui, parce qu'on a un langage bien spécifique, et de pouvoir s'exprimer quand ils viennent livrer leurs marchandises au magasin et qu'on dit, ah bah tiens, bois un café ce matin avec nous, c'est apporter un soutien qui est tout simple, qui est basique, mais qu'on a perdu sur nos exploitations parce qu'on se retrouve seul dans nos villages.
Ouais, votre travail reste un métier très difficile. Victor Noël, toi, tu n'as que... On va se tutoyer, je peux te tutoyer ?
Oui, bien sûr.
Tu n'as que 15 ans, mais déjà une grande maturité. Tu es très engagé sur les questions environnementales. Tu es végane, tu manges pas de viande. Tu comprends le métier de Jackie Cantonneur ?
Alors je comprends tout à fait sur le point de cette nouvelle agriculture qu'il faut à tout prix développer. Il faut développer cette nouvelle agriculture des circuits courts. On sait que l'agriculture actuelle marche sur la tête, on appauvrit les sols, on fait n'importe quoi. Donc oui, je m'y retrouve tout à fait. Après, c'est vrai que moi, j'ai une autre vision des choses concernant l'animal. Donc c'est vrai que je me retrouve pas sur l'élevage, mais globalement sur cette notion de développer une autre agriculture, je m'y retrouve tout à fait.
Alors Victor, tu as 15 ans. Tu réalises déjà des vidéos où tu parles de biodiversité, tu fais ça depuis longtemps ?
Oui, alors entre autres, oui, je fais des vidéos, oui, je m'intéresse à ce sujet-là depuis depuis que j'ai 8 ans, on va dire.
Le 9 mars dernier, tu as organisé une marche à Metz qui a rassemblé près de 1500 personnes, qui a réuni 80 associations de protection de l'environnement. Comment tu as fait pour réunir 1500 personnes ?
Oui, donc en fait, l'objectif de la marche était donc de parler de biodiversité, mais c'était aussi de réunir justement ces associations et de protection de l'environnement et naturalistes, essayer de faire un peu manifester ensemble les associations écolo, entre guillemets, les associations naturalistes. C'est vrai que le milieu naturaliste a pas beaucoup l'habitude de manifester, ou etc. Et du coup, voilà, c'était de montrer que toutes ces associations de protection de la nature existent. On n'en entend pas forcément parler, elles font un travail formidable.
Comment est né cet engagement qui est précoce, en fait ? C'est né comment ?
Ah, c'est né, on va dire, avec mon jardin, avec la forêt qu'il y a autour de chez moi. Vraiment, observer ce qui m'entourait, les oiseaux, la forêt, voilà, donc les insectes. Et en fait, c'est venu d'une passion de la biodiversité, d'une passion du vivant, en fait. Essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait, de comprendre comment moi, je vivais grâce à ce vivant-là. Et du coup, petit à petit, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait encore plus connaître ce vivant et j'ai pris conscience à quel point il était dégradé, à quel point il fallait faire en sorte de sensibiliser, de montrer que on vivait grâce à ce vivant, donc voilà.
Ce qui est étonnant, c'est que tu agis en solo, tout seul. Tu ne fais pas partie d'associations comme Youth for Climate, ce groupe de jeunes qui ont beaucoup fait parler d'eux. Pourquoi tu rejoins pas ces mouvements-là ?
Alors, je fais pas partie de Young for Climate, mais je suis bénévole dans plusieurs associations, donc je dirais pas que j'agis en solo. Là, par exemple, avec la marche pour la biodiversité, c'est moi qui organisais, mais finalement, on a créé un collectif, du coup, maintenant, qui s'appelle Marche pour la biodiversité, et on a créé un projet ensemble, donc, par exemple, sur les municipales, où on a justement... On a été s'adresser à des futurs élus, donc aux candidats des municipales, pour leur proposer de mettre en place une série de mesures de protection de la biodiversité. Donc je dirais pas que j'agis en solo. Alors oui, je suis pas membre des Young for Climate, mais je suis dans d'autres associations.
Comment tu vois ton avenir ? Tu veux faire de la politique, devenir ministre comme Nicolas Hulot ? Bon, ça n'a pas forcément été une réussite, mais peut-être que tu te dis que tu pourrais apprendre de ses erreurs et devenir un grand ministre de l'écologie. C'est quelque chose que tu imagines ?
Non, moi je me vois pas dans faire de la politique. Moi je me vois vraiment sur le terrain, dans le milieu naturel. Alors je sais pas, mais je me vois vraiment pas faire de la politique. Ce serait pas un milieu qui me conviendrait.
En tout cas, en septembre, tu vas sortir un livre qui s'appelle « Je rêve d'un monde » avec 3 points de suspension. En tout cas, c'est sûr qu'il faut prendre soin de notre planète, car nous ne sommes que de passage. On n'est qu'un grain de poussière, comme le chantait si bien Jacques Higelin.
qu'un grain de poussière. Un grain de poussière qui colle à tes bottines, qui bloque la machine, qui fait d'une ville un désert. Un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Un grain de poussière, perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air. Un grain de poussière, le fils du soleil et du vent.
Écoutez, rendez-vous place du marché sur France Inter. On est en direct de Saint-Avold en Moselle, près de la frontière allemande. Tous nos invités sont restés avec nous car c'est l'heure de l'apéro. Un apéro qui va démarrer en musique avec vous, Noël Waltertum. On verra que vous rencontrez un succès grandissant en Allemagne. Vous êtes à la retraite ancien instituteur. Comment est née votre passion pour la musique ?
Alors, elle est née très très tôt avec un papa et un grand-père musicien, une maman violoniste.
Vous avez accepté de nous jouer un extrait d'un de vos morceaux, ça s'appelle La Gitane. On vous écoute.
Merci. Je me souviens de la gitane sur fond de forêt noire, il y avait un lac et du brouillard passait ma vie en filigrane. Je me souviens de la gitane sur fond de prophétie, parler les cartes et la magie dansait les lignes de ma vie. Les archers dansaient, chantaient les tziganes, désert oublié, près des caravanes. Il y avait de la musique, du vin et des fleurs, un violon magique tournait dans mon cœur. Gitane, 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 gitane. Gitane, 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 gitane. Je me souviens de la gitane sur fond de soleil noir. Il y avait des accords de guitare qui appelaient la fée Morgane. Je me souviens de la gitane sur fond de prophétie, parlait les cartes et la magie dansait les lignes de ma vie. Les archers dansaient, chantaient les tziganes, désert oublié, près des caravanes. Il y avait de la musique, du vin et des fleurs, un violon magique tournait dans mon cœur. Gitane, 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 gitane.
Merci beaucoup Noël Walter-Thom. Vous êtes fait connaître en Allemagne sur les radios allemandes, alors que vous êtes bilingue français-allemand. Vous êtes fait connaître sur ces radios allemandes en chantant en français. C'est étonnant ça.
Oui, ben c'est pas si étonnant que ça, parce que le Land de Sarre, qui est le land voisin de la Moselle, est un land qui a été français par deux fois. Après la guerre, la première guerre, et puis après la deuxième guerre, la ville de Sarre-Louis avait été annexée par Louis XIV et Vauban en avait fait les fortifications. Aujourd'hui, on chante plein de groupes et de musiciens chantent sur ces fortifications. Donc voilà, il n'y a pas tellement de hasard. Ce sont des gens qui adorent la langue française.
Ils parlent tous bien le français?
Ils parlent, 40% d'entre eux parlent bien le français, connaissent les chansons françaises, Aznavour, connaissent Beko et les paroles de leurs chansons, parfois mieux que certains français, voilà.
Mais est-ce que vous n'auriez pas plus de succès si vous chantiez en allemand?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je crois qu'ils réclament, en fait, de la chanson française, même si parfois ils ne comprennent pas forcément le texte. Alors, comme je suis bilingue, je leur explique les paroles ou le contenu de la chanson et ça marche, ça suffit, voilà.
Alors vous cartonnez de l'autre côté de la frontière chez nos amis allemands, mais en France, vous avez plus de mal à vous faire connaître.
Tout à fait. Alors j'explique ça, comme je l'ai dit ce matin, j'explique parce qu'on cloisonne beaucoup chez nous dans notre pays et voilà, et donc la musique a un peu plus de mal. Enfin, lorsqu'on est auteur-compositeur, on a un peu plus de mal à montrer ce qu'on fait parce que voilà, on met des étiquettes un peu trop facilement chez nous et voilà.
Bon, il est l'heure de manger car c'est l'heure de l'apéro. Tout le monde est autour de la table. Tout le monde n'attend que ça. Il faut dire qu'il y a de très bonnes choses posées dessus. Noël, si vous voulez continuer un petit peu à nous mettre un peu d'ambiance avec la guitare, vous n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. Pour nous en parler, il y a Jackie Cantonneur, fermier éleveur de volailles, et Marie-Annick Michel. Bonjour, Marie-Annick.
Bonjour.
Vous êtes la présidente d'une association gastronomique, Tétain la Cocotte Tétinchoise,
oui,
qui fait référence à la ville où vous habitez, Tétain-sur-Niais. Il y a combien de personnes dans votre association?
On est 60 membres.
Qu'est-ce qu'on a sur la table?
De bonnes choses. Alors on a de la charcuterie, donc qui a été ramenée par Champêtre. Je vois le fameux Schweinskäse.
Oh, c'est où ça? Montre-moi. Allez-y, servez-vous. Hein.
Alors,
Cataline, Christian.
Je parle en patois. Hein. Donc le Schweinskäse chez nous, c'est ce qu'on appelle le fromage de tête.
Alors c'est où? Parce qu'il y a plein de choses. Ah, c'est d'accord.
Voilà, on a de la saucisse. Bon, chez nous, on dit de la Liona. Hein. Voilà, du fromage, du bœuf séché. Voilà, et on a du salami de bœuf au poivre.
Cataline, c'est bon? Vous mangez quoi là? Vous avez goûté quoi?
Le fromage.
Le fromage, il est comment?
Très bon.
Christian?
Ah, je confirme, je viens de goûter le fromage aussi, il est vraiment délicieux.
Marie-Annick, qu'est-ce que vous faites dans votre association autour de la cuisine? C'est essentiellement des plats d'ici, c'est quoi?
Alors en fait, on a un mix. Déjà, on se réunit une fois par mois, quand c'est possible, parce que là, avec le Covid, on n'a pas redémarré encore. Et on fait des cours de cuisine, surtout des cours de partage sur la gastronomie française. Et j'essaye, moi, de mettre à chaque fois un produit du terroir à l'honneur pendant nos cours de cuisine.
Faites-nous saliver, parlez-nous des spécialités de la Moselle. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger ici?
Oh, il y a plein de choses.
Je sais qu'il y a plein de choses,
Ici, bon, alors, quand on parle de la Lorraine, en France, on parle de la quiche Lorraine. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a les Grumpa Kichel.
C'est quoi?
Donc, c'est des râpés de pommes de terre, qui sont servis chez nous avec, moi, je le fais avec du saumon et de la crème fraîche, mais bon, on peut très bien les manger comme ça, ou avec un jarret de porc, ou voilà, donc il y a de ces choses-là. Le Schweinskäse, qui est vraiment une spécialité de Moselle. Et après, il y a des plats un peu plus typiques, comme, alors moi, je fais très souvent des Melknedel.
C'est quoi?
Alors, les Melknedel, c'est une recette familiale qui me vient de ma grand-mère. Donc en français on peut dire ça des quenelles de farine, des nuages de farine aussi, donc c'est tout simplement une pâte que je fais cuire dans de l'eau en forme de nuage, agrémentée d'un lard paysan. très important. On peut le faire avec des lardons, mais le lard paysan, c'est ce qui donne la touche finale et une bonne crème fraîche.
Moi, ce que j'aime personnellement, ce sont les boulettes de viande, les quenelles de foie de veau. Vous faites ça?
Les Leberknödel, on le fait aussi. Et là, on agrémente, enfin, on le met avec de la choucroute.
Merci beaucoup Marie-Annick. Cette émission a été réalisée par Violaine Ballet, Irène Ménahem et Thomas Lehété m'ont aidé à la préparer. À la technique, Sandrine Malon, Jérémy Thuil, Pascal Bresse, Guillaume Rialan et à Paris, Philippe Duclos. Merci Saint-Avold, merci à Michel Potier pour son accueil dans son restaurant Le Régal. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur franceinter.fr. Lundi, vous retrouvez Auris Fez à Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans quelques instants, c'est le débat de midi avec Camille Cronier. Camille, de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Bonjour Antoine, eh bien on va faire, je sais pas, peut-être que c'est votre cas, remonter d'atroces souvenirs à certains aujourd'hui puisqu'on parle des cahiers de vacances. Je vous souhaite un bon week-end, à la semaine prochaine.
Merci Camille, à tout à l'heure.